les enfants de Cronos.
Ce 9 septembre 1914, les combats sont très durs pour les troupes impliquées et particulièrement à Droiselle, où le 317e régiment d'infanterie est rapidement encerclé par un ennemi supérieur en nombre. L'ordre de Joffre de ne pas reculer fait face à la volonté de l'ennemi qui est sur le point de briser la résistance française et de marcher sur Paris. Les mitrailleuses allemandes placées à la lisière du Bois du Val et du Bois du Roi déciment les pantalons rouges français jetés dans la plaine. Le feu de l'artillerie des deux camps écrase aveuglément l'infanterie engagée. Face à la supériorité ennemie, les troupes françaises sont forcées au repli. Elles doivent abandonner Nanteuil. Grâce à l'intervention des batteries d'artillerie et à l'intervention d'éléments de cavalerie, les Allemands de la brigade Lepel n'arrivent cependant pas à forcer complètement les lignes françaises. Elles rencontrent même de plus en plus de difficultés et souffrent de pertes de plus en plus lourdes. C'est ainsi que vers 17h, alors qu'ils se trouvent au sud de Droiselle, le général allemand Lepel doit se résoudre à donner l'ordre à ses hommes de se replier en direction de Rosières, marquant ainsi la fin des combats dans ce secteur. Cependant, les troupes françaises qui bivouaquent dans les villages au sud de Nanteuil dans la soirée et durant la nuit du 9 au 10 septembre n'ont pas connaissance de ce retournement de situation. Elles s'attendent au contraire à une reprise des durs combats dès l'aube. Officiers et soldats craignent que le contournement qu'ils ont, au prix de grands sacrifices réussis à contenir, ne se concrétise le lendemain, offrant ainsi la victoire aux Allemands. Mais c'en est bel et bien fini de cette terrible bataille. Le 10 septembre, il n'y a plus un Allemand. Les troupes françaises doivent désormais entamer une poursuite vers le nord. Celle-ci aboutira à la fixation du front le long de la vallée de l'Aisne. Mais pourquoi avoir développé tant que cela les terribles combats autour de Nanteuil pour évoquer la vide et l'œuvre d'un vieil érudit? La question est légitime, mais on se peut trouver de réponses satisfaisantes sans avoir abordé le contexte des furieux combats qui se sont déroulés en ce début de septembre 1914. Le rôle personnellement joué par Ernest Corby prend une toute autre envergure dans les jours qui suivent la bataille. Ce rôle est cependant un peu caché au début par l'activité de l'historien et de l'homme ressource qu'il demeure. Très rapidement après la retraite allemande, Ernest Corby multiplie les courriers à ses contacts de la région dans le but de collecter le plus grand nombre de témoignages et d'informations possibles sur les événements. C'est ainsi que l'on connaît assez précisément le déroulement des faits à Boré, Mortefontaine, Versigny ou encore Villers-Saint-Genest. On reprend alors également pourquoi, dans l'ouvrage de l'instituteur Ernest Legrand, qui n'avait pu paraître comme initialement prévu en 1914, un appendice détaille tant les éléments touchant la présence des troupes passées par Nanteuil en septembre 14, et plus rien après. Il consigne le moindre fait, et peut ainsi renseigner avec précision les autorités qui se tournent rapidement et invariablement vers lui à l'heure de dresser les bilans. Des bilans empreints d'une forte propagande, il est vrai. Les exactions commises par l'ennemi prennent le pas sur les dommages de guerre des Français. Au fil de la guerre, alors que Nanteuil devient une zone de cantonnement, Ernest Corby et sa belle demeure accueillent inlassablement des officiers français qui ne doivent pas se priver de lui donner de précieux renseignements. L'adresse semble réputée et de nombreux messages de remerciement lui sont adressés pendant le conflit et même après. À l'issue des terribles journées du début du mois de septembre 1914, qui ont vu le flux et le reflux des armées britanniques, françaises et allemandes, le Valois et le Mulhacien se sont transformés en terre d'hécatombe. Des milliers de cadavres d'hommes et de chevaux jonchent les bois, les champs, les chemins et les fossés. C'est là qu'Ernest Corby sort de son rôle de mémorialiste des temps présents. Est-ce en raison de son rôle d'administrateur de l'hôpital, ou en raison de ses profonds sentiments chrétiens, Ernest Corby, 72 ans, se lance à la recherche des blessés abandonnés sur le champ de bataille, qu'ils soient français ou allemands. Bénéficiant de son statut de notable, et de l'aura certainement encore bien fraîche qu'il tire de son attitude irréprochable, et de son courage incontestable durant les heures d'invasion, il entraîne avec lui quelques hommes non mobilisés, parfois, voire même souvent, aussi âgés que lui. Il écume le pays à la recherche de malheureux que l'on aurait pu encore sauver. Au cours de ses pérégrinations, de Versigny à Villers-Saint-Genest et de Boissy-Fresneau à Bouillancy, il note et fait recenser les sépultures disséminées ici et là, et indiquer les renseignements inscrits sur les croix ou sur les messages enfermés dans des bouteilles. Il arpente inlassablement les cantons de Nanteuil et de Baie, et bénéficie pour ce faire d'un laissez-passer délivré régulièrement par les autorités militaires. Cela ne l'empêche pas d'être convoqué par le tribunal de police de Baie pour défaut d'autorisation de circulation du côté d'Acier en Mulhacien en 1915. À partir du mois d'octobre 1914 et jusqu'en 1916 au moins, Ernest Corby, accompagné de quelques ouvriers, souvent aussi âgés, Les autres étant mobilisés, décident de lancer dans une tâche aussi funeste qu'honorable. Identifier les corps des soldats tombés pendant la bataille et rester anonymes. Armés d'un carnet, ils consignent méthodiquement, d'une écriture parfois tremblante, est-ce dû au froid ou à l'émotion, toutes les informations physiques et vestimentaires permettant une éventuelle identification des cadavres, souvent en décomposition ou déjà décharnés. La dentition, les cicatrices, les objets, bijoux, montres, papiers ou sous-vêtements personnels sont autant de pistes permettant de remettre un nom et un numéro de régiment sur un corps enterré quelques semaines, voire quelques mois plus tôt, avec plus ou moins de soins, par les camarades ou la population. C'est ainsi que le carnet d'Ernest Corby indique au crayon, par exemple, un soldat du 317e de ligne, taille moyenne, brun, moustache, petit papier, petit sac avec papier contenant argent, dents molaires du Bagaté. Ce soldat a été ramené du lieu dit la queue des Pierrots, entre Versigny et Nanteuil. Il est ensuite déposé dans une grande tombe, puis au cimetière de Nanteuil, dans lequel il repose toujours aujourd'hui. Bien souvent, Ernest Corby règle personnellement la facture de 11 ou 12 francs, correspondant au cercueil dans lequel il tient à faire reposer les hommes tombés au champ d'honneur. Les exhumations, identifications, réinhumations sont effectuées entre les mois d'octobre 1914 et mai 1915, puis, ponctuellement, au fil des découvertes, jusqu'en 1916. Durant cet hiver, il tente de retrouver les familles concernées en diffusant des annonces dans la presse régionale du Grand Ouest et du Centre-Est, dont sont issus les régiments bretons, sartois ou encore belfortins, ayant combattu autour de Nanteuil. Il entretient une intense correspondance avec les familles des disparus, restées sans nouvelles mais alertées par la presse de l'activité de cet homme. Le bouche à oreille étant la meilleure des communications, les courriers désespérés abondent à l'adresse d'Ernest Corby, rue Gambetta ou à l'hôpital. Tout le monde prie le très dévoué M. Corby de bien vouloir vérifier tel ou tel détail sur le corps ou dans les effets personnels de l'être aimé. Une cicatrice discrète, une chemise personnelle, un porte-monnaie marqué d'initiales, les familles s'épanchent dans des lettres empreintes à la fois d'espoir et de résolution. Certaines familles se rendent à Nanteuil, sans toujours y être autorisées par les autorités militaires, et découvrent alors que leur cher disparu repose désormais seul, dans un cimetière, et non plus sous un champ ou au bord d'un chemin, dans une tombe collective enveloppée dans une toile de tente. Alertée certainement par la presse, la veuve du soldat du 317e ramené de la queue des Pierrots, avec ses camarades, identifie son mari. Il s'agit de Gaston Richet. C'est un sartois de 30 ans. Sobrement, mais à l'encre et d'une écriture plus soignée, Ernest Corby indiquera le nom du soldat identifié sur son carnet, à côté de la description du corps. Nombreuses sont les familles qui offriront de rembourser les frais engagés par le brave homme pour enterrer avec dignité les enfants de France tombés dans le Valois. À l'issue de la guerre, Ernest Corby devient logiquement délégué du souvenir français, et ce sera à ce titre encore souvent sollicité lors de recherches restées vaines. Son abnégation est alors unanimement saluée. Mais s'il est régulièrement convié lors des célébrations et inaugurations de monuments aux morts ou autres, aucune distinction ni récompense ne lui est attribuée. Bénéficiant de l'estime de tous, à l'image du vicomte Arnaud Doria, d'Orouy, qui publie ses croquis de guerre et lui envoie donc un exemplaire en demandant toute son indulgence, bien entendu, le général Boël et d'autres auteurs de récits sur la Grande Guerre qui ont fait appel à lui, André de Maricourt, l'abbé Conan ou Édouard Blanc, lui dédicacent leurs ouvrages. Mais un seul homme entreprend de faire reconnaître le rôle éminent tenu par Ernest Corby dans ses heures difficiles. Il s'agit du comte Henri de Kersin, maire de Versigny et conseiller général. Il demande la croix de guerre pour lui et le curé de Janson de Nanteuil. En vain. Ernest Corby n'a jamais rien demandé et n'a jamais rien reçu. Après sa disparition en 1924, une génération s'est éteinte, celle des fondateurs du comité de Senlis. Malgré ses 62 années passées au service de l'histoire et de l'archéologie du Valois, ses travaux n'ont jamais été publiés. C'est donc assez logiquement et naturellement que s'est éteinte la mémoire de ce héros si discret, dont nous espérons avoir contribué à raviver la mémoire près d'un siècle après sa mort. Gageons peut-être qu'après avoir découvert les épisodes de la vie de cet inconnu et ses mérites, des citoyens, voire un conseil municipal avisé, retiendront enfin que 100 ans après des actes aussi importants que ceux accomplis par cet homme, il mérite peut-être une plaque commémorative, ou que son nom soit donné à un square, une rue ou un établissement culturel du Valois.